avec Benoît Marchal.
Bienvenue pour le 103e épisode de Déclencheur.
La photo, comme vous ne l'avez jamais entendu.
Deux segments dans cet épisode, une rencontre avec Sam Vauquane de Seal et le deuxième épisode avec vos commentaires et vos réactions. Retenez dès à présent l'adresse du blog www.déclencheur.com. C'est là que vous pourrez vous abonner, partager vos commentaires ou vos réactions. Mais pour profiter au mieux de Déclencheur, gravez-le sur un CD, placez-le sur un baladeur MP3 et emportez-le avec vous pour l'écouter dans le métro, dans le train, dans la voiture, en faisant des tâches ménagères, bref, là où vous voulez. Exceptionnellement, il n'y a pas d'édito dans cet épisode. Suite à la 100e, il y a beaucoup de commentaires qui sont accumulés et donc on n'aura pas d'édito pour avoir le temps de traiter tous vos commentaires et vos réactions. Premier segment donc, une rencontre avec Sam Vauquane de Seal. On a le plaisir aujourd'hui d'être chez Ladurée, qui est un fabricant de macarons parisien apparemment bien connu, moi je découvre. Et je suis avec Sam Vauquane. Bonjour Sam.
Bonjour.
Toi tu es le représentant commercial de Seal, c'est ça?
C'est ça, pour la France, oui.
Pour la France. Alors Seal, explique-nous un petit peu. Donc vous êtes fabricant de papier et vous vous lancez dans le papier photo jet d'encre professionnel. C'est une nouvelle gamme que vous lancez. Moi j'ai l'impression avec la photo numérique qu'il y a plein d'acteurs comme ça qui arrivent. Qu'est-ce qui pousse une marque à démarrer sur ce marché-là?
En fait, Seal est déjà présent dans le domaine du papier jet d'encre ou des supports jet d'encre, puisqu'il n'y a pas que le papier qui est concerné, il y a d'autres types de supports, des films, du Tyvek, de la toile d'artiste, etc. Nous souhaitons développer nos activités avec un savoir-faire qui est celui de l'induction de jet d'encre, qui est notre savoir-faire premier, et donc sur cette application papier photo professionnel. Bon, effectivement, sur le marché du jet d'encre photo, on retrouve d'une part des acteurs traditionnels de la photo qui sont bien connus du grand public, marques qui, Kodak, elles, n'ont pas spécifiquement donc elles qui sont très connues mais qui n'ont pas au départ de compétences spécifiques au niveau du jet d'encre. Et puis on retrouve des acteurs comme nous qui en fait viennent du monde du jet d'encre sans avoir nécessairement d'image au niveau du grand public.
Oui, donc en fait,
puisqu'on est une marque professionnelle,
dire...
on travaille avec des professionnels, ouais.
Donc ce que tu es en train de dire en quelque sorte, c'est que les papetiers traditionnels de la photo ont des choses à réapprendre en quelque sorte. Parce que le média est en train de changer.
Oui, le média change.
D'accord. Alors justement, explique-nous, là tu as parlé, votre spécialité c'est
l'induction en fait.
Alors qu'est-ce que c'est ça?
Alors en fait, qu'est-ce que c'est un fabricant de papier jet d'encre? Si on parle de papier jet d'encre ou support jet d'encre, en fait c'est un inducteur, donc c'est une société qui met des couches, une ou plusieurs couches d'induction, donc induit plusieurs couches minérales pour permettre à un support de le rendre imprimable avec des encres, qu'elles soient différentes. Donc, on verra ça par la suite.
Okay.
Donc un support, si on prend un papier basique, on prend un papier par exemple reprographié, un papier bureautique, donc c'est un papier qui aura juste un surfaçage pour permettre une simple impression laser ou impression jet d'encre, mais très simple.
D'accord.
Si on prend le cas de l'encre, si on met beaucoup plus d'encre sur le papier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va gondoler, parce que la fibre de cellulose va absorber l'encre.
D'accord.
Et donc le papier va se déformer et donc le résultat ne sera pas bon.
D'accord.
Alors en fait, pour permettre à un papier de recevoir une couche d'encre importante, on est obligé d'avoir une couche de réception de cette encre qui va permettre de le fixer l'encre dans cette couche et ne pas toucher la base papier.
D'accord.
Notre métier, c'est d'enduire, en fait.
C'est de venir rajouter ces couches qui vont permettre...
Tout à fait.
D'accord.
Alors, ces couches seront différentes selon les encres, selon les imprimantes concernées.
Pourquoi est-ce qu'en photo, on a plus d'encre qu'en bureautique? Je ne suis pas certain de comprendre
en,
le...
En bureautique, c'est l'impression noire. On imprime que du noir. Si on imprime de la couleur, j'aurai
quatre couleurs.
Bah, de toute façon, il y a une charge d'encre totale.
D'accord.
Il n'y a pas un seul passage
de noir.
Parce qu'il
y a quatre couleurs et donc.
Mais il y a quatre couleurs, il y a le noir. Donc le noir, bon, ça fait un passage d'encre.
Ouais.
Les quatre couleurs, il y a quatre passages d'encre en plus. Globalement, il n'y aura pas de couche réceptrice et l'encre va baver sur le support et elle va faire onduler le support.
Quand on prend du papier jet d'encre, la première impression qu'on a, c'est qu'il est plus épais. Mais dans ce que j'entends, ce que tu me dis, c'est pas simplement ça qui fait que la qualité va être...
Non, tout à fait. L'épaisseur n'a rien à voir. Il est plus épais parce que, si on prend le cas du papier photo, le consommateur, l'utilisateur souhaite retrouver, une fois qu'il a imprimé son papier, un papier qui se ressemble le plus proche, le plus près de la photo argentique qu'il connaît. La photo qu'il va faire développer chez les labos photo. Ce qui sont des papiers support épais, de l'ordre de 300 grammes, 300, 350 grammes. Donc c'est ce qui explique pourquoi les papiers photo jet d'encre se rapprochent de ce grammage, pour ressembler le plus possible au papier argentique en termes de toucher, en termes de consistance.
D'accord.
Bon, il y a d'autres contraintes purement techniques, c'est qu'effectivement il y a une couche jet d'encre qui prend déjà une certaine épaisseur, et cette couche doit se poser sur un support qui a déjà un minimum d'épaisseur. Les papiers bureautiques de type 80 grammes sont trop fins, c'est pas le même type de papier, mais ils sont trop fins pour supporter des couches, qui elles-mètres peuvent monter à 20, 30, 40 grammes.
Ah oui,
mètre carré. Donc généralement, on n'aura pas de papier photo en dessous de 200 grammes. 150, 170 grammes sont vraiment des minimums. Et selon le type de couche, minimum c'est 200 grammes. Donc il y a aussi des contraintes techniques pour pouvoir mettre la couche sur un support qui permette
la réception.
Cette couche, qu'est-ce qu'elle fait au juste ?
Alors cette couche, elle permet en fait de fixer l'encre. Donc fixer l'encre, c'est-à-dire que l'encre ne va pas déborder, va rester précisément bien précis sur l'endroit où elle tombe. Donc elle ne va pas se diffuser ni en largeur, ni en profondeur, dans la base. Si elle va en profondeur, le papier va onduler. Et elle permet de restituer une couleur très précise.
D'accord.
Parce que le point va être fixé.
D'accord. Sans ça, on aura...
Sinon, l'encre va diffuser et donc va donner un rendu qui ne correspondra pas du tout à l'image de départ.
D'accord. On perd en définition, en fait.
On va perdre la définition, on va perdre de tout.
D'accord, ok.
La couche, une fixation de l'encre pour permettre un rendu optimal.
On lit parfois que quand on a fini son impression, il faut remettre une protection sur le papier, etc. C'est quelque chose qui...
Tout dépend de ce qu'on souhaite faire. Ça, c'est surtout le cas au niveau professionnel sur des rouleaux. Sur des gros rouleaux, on peut être amené à plastifier un produit s'il doit aller en extérieur ou s'il est manipulé, par exemple pour des salons, des supports qui sont imprimés, et ensuite ils sont déroulés, ils sont grattés, ils sont nettoyés. Ou par exemple des vinyles, donc là on change complètement de sujet de papier photo, un vinyle jet d'encre qui va être utilisé sur des voitures, en habillage de voiture, donc c'est clair qu'il va subir un certain nombre d'agressions extérieures, donc il a besoin d'être protégé. Mais pour le domaine de la photo, non, pas du tout. Le support lui-même fixe l'encre et la plupart du temps, enfin tout dépend des supports, mais les meilleurs supports eux-mêmes ont une résistance à l'eau, une résistance au grattage, qui est nos supports, donc il n'y a pas besoin de le protéger.
Okay.
Bon, par contre, si on parle de l'aspect conservation, c'est un autre sujet.
Tout à fait intéressant.
Donc, la conservation.
C'est vrai que les photos, ça a une valeur dans le temps. Donc, c'est quelque chose qu'on veut conserver.
Ça, c'est un point important. Bon, ça dépend bien sûr de la nature du papier utilisé. Si on utilise des papiers qui sont sans acide, ça va éviter qu'ils jaunissent dans le temps. Ce qui est important de savoir, c'est qu'un papier, en fait, subit des agressions dans le temps. C'est quoi ? C'est les UV. C'est les UV de la lumière, bien sûr. Et c'est pas que les UV, c'est également l'air qui entoure. En fait, c'est l'ozone en particulier dans l'air, si on rentre trop dans le détail technique, qui va agresser le produit. Donc on a vu nous-mêmes sur des tests de vieillissement accéléré, sur une gamme de papier photo professionnel, que selon les conditions d'exposition, à lumière, en plein soleil, à lumière néon, en intérieur, si on est près des vitres, si on est loin des vitres, ça joue. La tenue, je dirais, de l'impression va varier, beaucoup. Et également si on protège le produit ou pas. Donc on fait les tests sous verre, mais ça correspond à une photo qu'on met dans un album, par exemple.
D'accord.
Parce que si la photo n'est pas en contact direct avec l'air, par exemple dans un album, la durée de vie peut être très très longue. On dépasse les 100 ans sans problème.
Oui, donc là tu me montres une estimation que vous avez faite chez vous de la durabilité effectivement de papier en fonction des conditions. On voit effectivement des différences phénoménales.
Oui, on a donc ce tableau qui était fait avec une estimation de durabilité des trois fabricants, hein, Canon, Epson, HP, avec leurs encres pigmentées. Sur nos trois supports de la gamme studio, le papier photo, et pour entrer dans les détails, donc sur notre papier photo brillant, donc 330 grammes, imprimé avec les encres pigmentées Lucia de Canon, en éclairage lumière du jour, éclairage indirect faible sous verre, on a une estimation de durabilité de supérieure à 125 années. Le même papier, donc imprimé avec les mêmes encres, mais en éclairage direct par les rayons du soleil à une fenêtre, on va donner une durée supérieure à 25 mois. Donc on passe de 125 ans à 25 mois. Donc c'est vraiment très très différent. Voilà, donc généralement c'est le test qui sont faits sont sous verre, mais on peut assimiler ça effectivement si on met ça dans un album, l'album reste fermé.
D'accord.
Il est protégé des UV, mais également de l'air. C'est pas que les UV.
Ok.
Alors on va peut-être entrer dans le détail des encres plus tard, mais effectivement il y a deux grandes catégories d'encre, encre pigment et encre à base de colorant, avec des résultats aussi qui sont très différents. Mm-hmm. Donc selon le fabricant d'encre, selon l'encre, avec le même papier, on a des résultats très différents.
D'accord.
En fonction également d'exposition. Donc c'est pour ça qu'on
a
des tableaux de ce type-là.
Un autre paramètre qui est très complexe.
C'est pour ça qu'on peut pas partir sur une assertion simple.
Ouais.
On peut dire tel produit imprimé avec telle imprimante, telle encre dans telles conditions, on peut dire qu'il va avoir à peu près telle durabilité.
Je comprends. Sur ce que tu nous expliques là, tu as évoqué un instant les papiers sans acide, qui a un impact sur la conservation. Tu peux nous expliquer un petit peu effectivement les différents types de papiers, leur impact sur l'utilisation ?
Un papier, de façon générale, est fait à partir de cellulose. Mm-hmm. Donc il y a différents types de cellulose. Et le problème, la cellulose, c'est une matière formidable. Le problème, c'est que avec le temps, elle va évoluer. Elle est fragile à l'humidité. La fibre cellulose se déforme à l'humidité et aux UV, elle a tendance à jaunir. Alors effectivement, ça c'est un problème qu'on a avec les papiers pour la durée. Et donc la manière d'améliorer ce point, c'est pas résoudre complètement, mais de l'améliorer, c'est d'utiliser de la cellulose dite sans acide, sans chlore et sans acide, qui justement évite ce jaunissement.
On lit aussi
dans le temps.
D'éviter les agents d'éclaircissement. Alors, enfin, il y a toute une série de choses. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu justement ces éléments-là
Ça, c'est un autre point. Donc au départ, on est parti au niveau de la cellulose. Donc il y a déjà moyen d'avoir une cellulose, je dirais, qui est plus stable dans le temps et aux UV avec le sans acide.
Mm-hmm.
Alors, Une fois qu'on utilise une cellulose et qu'on a mis une couche dessus sur notre base de cellulose, très, très schématiquement, on est amené généralement à blanchir, donc à utiliser des agents de blanchiment pour rendre le produit plus blanc, puisqu'un papier, par définition, les gens veulent un papier est toujours plus blanc. Quelque chose de plus blanc, plus le papier est blanc et plus il y a une notion de qualité qui ressort. Alors effectivement, ça c'est encore quelque chose de culturel, puisqu'on voit que dans les pays, je dirais, en France par exemple, au type méditerranéen, on fait partie du groupe méditerranéen à ce niveau-là, le blanc est bleuté, donc pour nous un blanc doit être bleu. Et les pays scandinaves ou germaniques, un blanc est plus jaune. Donc visuellement, si on montre un papier blanc bleuté à un Français et un Allemand, le Français va le trouver plus blanc, l'Allemand va le trouver moins blanc. Donc c'est purement culturel, la notion de blanc est très très relative, très subjective.
Ça veut dire que vous faites des produits différents en fonction du marché alors ?
Où on a plusieurs produits, ils ne fonctionnent pas de la même façon sur les différents marchés, parce que les notions culturelles ça, sont implantées. Donc la notion de blanc, bon, il y a des mesures objectives, hein, de l'AB, de mesure du blanc, mais c'est déjà quelque chose d'un petit peu subjectif. Alors, de façon générale, la plupart des papiers sont blanchis, donc on rajoute des agents de blanchiment. Le problème, ces agents de blanchiment, c'est qu'effectivement, ils sont très sensibles aux UV, à l'ozone, et donc c'est eux qui jaunissent le plus rapidement, en fait, qui poussent le papier à jaunir. Mmh. On a un produit spécifique, hein, qui est le baryton, on verra plus tard, qui, lui, n'a pas du tout d'azur optique. Bon, et pour les autres produits de notre gamme qui ont une durabilité longue, on a des azur optiques, mais spécifiques, qui n'ont pas l'aspect du baryté, mais qui permettent quand même une certaine durabilité. Mais bon, là, c'est un petit peu plus spécifique. Mais de façon générale, l'azur optique, c'est très bien pour la blancheur, mais c'est pas bon pour la tenue dans le temps.
Tu peux nous expliquer la fabrication du papier ? C'est-à-dire, on démarre de la cellulose ?
Alors, on démarre de la cellulose, hein, sur des machines à papier qui sont des gros monstres. Hein, c'est l'industrie lourde. Hein, c'est des gros monstres. Bon, sur les bases papier photo, donc ça, c'est des bases spécialisées par rapport au papier pour faire de l'offset, du magazine ou du papier journal, c'est clair. Donc, c'est des papiers un peu spécialisés. Donc, ces machines déjà un petit peu moins rapides, un peu moins grandes, mais c'est quand même des grosses machines. Hein, ces machines qui font 2-3 mètres de largeur, 150 mètres de long. Bon, donc, c'est des gros monstres. Donc, ça part de cellulose. On fabrique le papier. Et ensuite, donc ça, c'est la première partie. Ça, c'est le papier de base, en fait.
Ouais.
Donc, ça, c'est un métier. Et ensuite, généralement, dans d'autres sites, dans d'autres usines, donc on a l'opération d'induction.
D'accord. Et tu parlais de...
Alors au départ, il y a une extrusion. Donc extrusion polyéthylène. Sur ce papier, on ajoute une ou deux couches, généralement deux couches, pour permettre d'avoir une meilleure planité de polyéthylène qu'on met sous forme liquide.
C'est cellulose, on voit bien.
Non, le polyéthylène, c'est un dérivé de plastique qui est mis sous forme liquide sur le support de chaque côté pour, je dirais, solidifier le support.
Ouais.
Et également lui permettre de mettre la couche par-dessus, donc bon, c'est
d'accord.
Un complexage.
Et puis après,
on met l'induction.
D'accord.
En un ou plusieurs passages selon les fabricants.
D'accord. Okay.
Nous, on a une spécialité d'avoir une couche unique, mais la plupart des autres fabricants mettent plusieurs couches.
Bon, d'accord.
Là, c'est une question de.
Ok. On revient sur les encres ?
Absolument.
Donc, pigment, encre à colorant. J'avais avant une imprimante à colorant et j'arrivais pas à imprimer sur des papiers mats. Et moi, j'aime bien les impressions sur des papiers mats. Depuis que j'ai le pigment, je peux faire des belles impressions sur ces beaux papiers. Et deuxièmement, ce sont les encres qui sont présentées comme étant celles qui ont la plus grande durée de vie. Est-ce que c'est le bon raisonnement ou qu'est-ce qu'on...
Oui, pour la durée de vie, c'est exact, puisque les encres à pigments ont la particularité d'avoir effectivement une très bonne résistance aux UV, ce qui n'est pas le cas des encres à base de colorant. Donc, en termes de durabilité, c'est clair, ce sont les encres à pigments qui sont celles qui permettent la durabilité, donc, quel que soit le fabricant, ça c'est purement une question chimique. En ce qui concerne le rendu, là c'est plus, je dirais, c'est plus une question de personnel, c'est une question d'imprimante, d'encre. Il n'y a pas une encre qui est meilleure qu'une autre, l'encre en termes de rendu.
Mm-hmm.
Bon, après, chaque fabricant et ses générations d'encre, on va son argumentaire par rapport à ça. Donc en termes de rendu, c'est plus un choix personnel.
Bon,
par contre, l'encre à pigment est celle qui va permettre la durée de vie la plus longue puisqu'elle a une résistance aux UV que n'aura pas l'encre incolore.
D'accord.
Ça, c'est clair.
Est-ce que ça a un impact, l'encre et le papier ? Est-ce qu'on peut mettre n'importe quelle encre avec n'importe quel papier ?
Non, justement, non. Ça serait trop simple. En fait, schématiquement, les couches entre guillemets traditionnelles, et même c'est pas très vieux, le jet d'encre, les couches RC fonctionnent très bien avec les encres à base d'eau. Mais malheureusement, pas du tout avec les encres à pigments, c'est-à-dire que l'encre ne se fixe pas sur le support et le rendu pas bon. Depuis quelques années, et là, s'il fait partie des précurseurs à l'échelon international, donc ont été développées des couches dites microporeuses ou nanoporeuses. Un fabricant que je ne citerai pas appelle ça nanoporeux, mais c'est exactement pareil que microporeux. Tout simplement, donc c'est une question d'appellation. Ce sont des couches qui permettent justement de bien fixer les encres pigmentées et à fortiori également les encres à base d'eau.
D'accord.
Donc c'est le produit, c'est la couche magique puisqu'elle permet de fonctionner avec tout.
D'accord.
Auparavant, les couches utilisées sur les papiers RC ne fonctionnaient pas avec les encres à pigments. Donc aujourd'hui, les nouvelles générations de produits depuis 3-4 ans et les produits en tout cas qualitatifs à grammage élevé sont tous de toute l'offre du marché à base de microporeux. Mais ça, on ne trouve pas sur l'appellation du produit. À la limite, c'est plus technique, c'est pas forcément un critère
d'accord.
À connaître par le grand public ou l'utilisateur même averti. Hein, mais c'est qualitativement, la couche microporeuse permet l'universalité. Bon, il existe d'autres types de couches, mais qui sont plus réductrices.
Je ne suis pas certain de te comprendre, alors, oui. Parce que tout à l'heure, tu as dit que c'était important de faire correspondre le papier à l'encre. Et puis là, tu es en train de nous dire, en final, qu'il y a une couche miracle qui fonctionne avec toutes les encres. Alors, je suis plus certain de comprendre le point de départ.
Oui, c'est une question d'évolution dans le temps. Tous les fabricants ne maîtrisent pas ces couches microporeuses. Bon, donc, au jour d'aujourd'hui, les meilleurs produits, ils ont tous des couches microporeuses. Maintenant, il y a certains coûts derrière. Donc, je dirais, pour les travaux pointus, techniques, haut de gamme, il est évidemment nécessaire d'utiliser ces couches. Maintenant, on trouve encore et une grosse partie du marché au niveau grand public sur des produits, je dirais, papier photo type 170-180 grammes, les entrées de gamme. La plupart n'ont pas ces couches microporeuses parce qu'il y a une question de coût. C'est le prix qui est le critère essentiel et ces couches sont beaucoup plus onéreuses. C'est à l'imitation, forcément. Ils sont moins chers, mais ils ne sont pas compatibles sur tous les systèmes. Alors que les couches microporeuses, maintenant, seront compatibles plus ou moins bien selon l'encre, selon la marque d'encre. Hein, puisque
et en tant que consommateur, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que le papier qu'on va acheter va bien fonctionner avec son imprimante? On achète et on essaye.
C'est généralement ce qu'on fait. Hein. De toute façon, je pense que si on pose la question au magasin, ils n'auront pas à répondre. Ces notions microporeuses, a priori, ne sont pas mises en avant par les fabricants de machines, donc ça, il ne le sera pas. Donc je pense que c'est... Malheureusement, c'est le système classique. On essaie puis on voit.
Okay. Il y a des gens qui se disent, j'ai l'imprimante machin, il faut absolument que j'achète le papier machin pour pas avoir de risque d'abîmer mon imprimante. Et je crois que c'est moins le cas dans nos éditeurs, qui sont quand même des gens qui sont plus à l'aise. Mais qu'est-ce que tu réponds à ce genre de...
C'est logique, je dirais, qu'un utilisateur utilise au départ, par crainte de risque, le papier de l'imprimante. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, ça peut-être que certains vont bondir, mais que généralement, généralement de façon, il n'y a même pas d'exception. Le fabricant d'imprimante n'est pas lui-même producteur de papier. Donc, en fait, le papier qui est vendu à la marque de fabricant d'imprimante, c'est un papier qui a été sélectionné, pour lequel il a fait ses courbes, mais il n'est pas lui-même fabricant. Donc, le papier, généralement, va se retrouver sur le marché sous d'autres appellations. Et sur des tests qui ont pu être faits, il n'est pas forcément le papier, le meilleur papier adapté à une imprimante n'est pas forcément celui qui est sélectionné, puisqu'il y a d'autres critères qui entrent en ligne de compte. La qualité, évidemment, les critères principaux, mais il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte. Donc, je crois que le mieux, c'est que l'utilisateur teste le produit.
Il n'y a aucun risque pour le matériel.
A priori, je n'ai pas connaissance de risque majeur de papier qui détruit une imprimante. Le papier ne fait pas partie du système, comme c'est le cas de l'encre. Ce qu'il va faire, c'est que le rendu ne sera pas bon. Donc, j'ai rien contre le papier 180 grammes, mais je prends l'exemple exprès comme papier, je dirais, photo ou 10 photos. Parce que parfois, ce n'est pas forcément des papiers photo. 170-180 grammes, donc je dirais les entrées de gamme de produits brillants. S'il en utilise avec une encre pigmentée, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir un résultat désastreux. L'impression ne sera pas bonne. Donc, il aura perdu son temps, il aura perdu le coût de son encre, qui est assez onéreuse. Le papier qu'on choisit, généralement, c'est par rapport, ça c'est au choix du consommateur, sur le résultat qu'il souhaite obtenir. C'est l'effet qu'il souhaite avoir. Il souhaite avoir un effet de couleur, un effet de texture. Pourquoi il y a différents papiers? Parce qu'il y a différents. Ça permet d'avoir un choix plus élevé dans ce qu'il souhaite avoir. En fait, la traduction jet d'encre des papiers, il s'agit de papiers qui existent sans traitement jet d'encre, mais qui ne sont pas imprimables en jet d'encre. Qui sont généralement imprimés en offset.
On entend velin, machin, etc. Si on n'est pas spécialiste, on ne comprend pas trop ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça, ce sont les appellations papier, papetière, les appellations velin. Un produit peut être marbré, peut être gaufré, peut souhaiter du papier couché mat, donc un aspect purement mat, ni brillant ni satin. Bon, disons qu'il y a toute une gamme de papier artistique qui existe. Bon, le métier du jet d'encre, c'est d'ajouter une couche sur des supports. Existent. Ces papiers créatifs existent, sinon pas de traitement jet d'encre, ils ne seront pas imprimables avec des imprimantes jet d'encre. Mais ils existent, je dirais, pour d'autres types d'impression, généralement offset.
D'accord.
Donc il existe des papiers de création, il existe des papiers texturés, gaufrés, marbrés, avec des effets spéciaux. C'est ces supports qui servent de base à l'induction.
C'est ce qui est intéressant d'ailleurs dans le jet d'encre par rapport au tirage argentique, où en fait on est limité à quelques types de papier. Ici, c'est vrai qu'on a maintenant une gamme, une richesse qui devient phénoménale.
Tout à fait. Sur la gamme papier, pas un petit coup de pub, mais au niveau des distinctions des gammes, donc on a trois gammes au niveau de cette gamme professionnelle, destinée aux photographes professionnels ou amateurs avertis. Donc on a la gamme studio, donc qui est la gamme papier photo, grammage élevé, 300-330 grammes, donc un brillant. Donc un aspect brillant, très glossy, brillant. Parce qu'on trouve les deux appellations, glossy c'est l'anglais, c'est brillant, très brillant, ultra brillant. Un aspect satin, qui est un petit peu plus mat, qui est souvent plus apprécié, parce qu'en fait, ça permet de mieux apprécier l'image, parce que quand c'est trop brillant, on ne voit pas bien la qualité de l'image. Et on a un support un petit peu original, qui est un recto verso, donc imprimable de face, donc en satin. Donc ça, c'est la gamme studio, la gamme papier photo. On a un papier spécial, qui est un papier assez à la mode, justement, donc, qui est le barité, qui fait l'objet d'une gamme spécifique, en tant que le début d'une gamme spécifique, qu'on appelle galerie. Et puis, on a un début d'une gamme aussi qui s'appelle le muséum, avec la toile d'artiste, le canvas, qui est une induction aussi. Donc là, on n'est plus tout dans le domaine papier, c'est du coton. Hein. C'est un mix coton,
coton polyester.
C'est plus du papier du tout, c'est plus de la cellulose, c'est de la toile, hein. C'est du coton.
Là, tu l'as amené, ça ressemble à effectivement une toile comme un peintre.
C'est une véritable toile.
C'est une toile,
c'est une toile de peintre avec une induction jet d'encre dessus. On parle de support varié, en énergie, on dépasse le cadre du papier photo et du papier même, puisqu'on n'est plus du tout dans le cadre du papier. Il n'y a plus de cellulose.
On vient sur le barité.
Oui.
Alors, le barité, c'est le papier qui revient un petit peu là maintenant. On voit différents fabricants le proposer. C'est un papier qui fait très plaisir aux photographes. D'abord, qu'est-ce qui est la spécificité? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est barité?
Barité, c'est une question de composition de la surface. Donc que ce soit en argentique ou maintenant en numérique, en tout cas chez nous, je pense que c'est pareil chez nos confrères. Donc c'est une couche qu'on utilise, le sulfate de barium, qui est une couche spécifique qui donne un aspect spécial. Alors je ne suis pas un expert de la photo argentique, je sais simplement que c'est un papier spécial avec un séchage à l'air, donc avec des irrégularités, bon, qui est une couche qui permet justement de définir particulièrement les noirs. Donc c'est un papier qui est surtout fait pour les portraits, pour le noir et blanc, parce qu'il permet de bien dégager les contrastes entre les noirs profonds, les autres noirs, les demi-teintes, les gris. Donc c'est vraiment un papier qui est réputé avoir ses particularités au niveau argentique. Au niveau numérique, en fait, notre papier barité est un véritable barité. C'est-à-dire qu'en fait, une fois la couche de cellulose et l'extrusion polyéthylène, on a une pré-couche de sulfate de barium qui permet d'avoir ces impressions et dessus la couche, une microporeuse dont on a parlé.
D'accord. Donc c'est le même papier que ce qu'on utilisait en...
Pas tout à fait, puisque le séchage est différent, mais la base, je dirais la couche qui permet de donner cet aspect est la même base que celle qui était utilisée la couche. Pour le papier photo barité argentique.
Et c'est un papier que vous visez exclusivement pour le noir et blanc ou il a aussi son application en couleur?
Il a des applications couleur, mais l'atout principal, c'est le noir et blanc. C'est là où il donne justement ses meilleurs rendus. Alors, une chose aussi spécifique sur ce papier, outre la couche, on a également une base différente de celle des autres papiers. Donc, on utilise de la cellulose alpha, qui est un type de cellulose très spécifique. Dans ce système-là, on n'ajoute pas du tout d'azur optique.
D'accord.
Donc, c'est un papier qui aura au moins la même durée d'archivage, puisqu'on vient de son archivage, que le papier barité classique.
D'accord. Une dernière question. De plus en plus, on voit les fabricants de papier proposer des profils ICC, proposer de la calibration autour des papiers. Je ne les ai pas trouvés sur votre site.
Ils sont,
mais c'est moi qui ai mal regardé.
Mais bon, notre site, comme tous les sites, est clair et simple pour ceux qui le conçoivent, et puis après qu'on explique pour ceux qui l'utilisent. Mais bon, il faut parfois un mode d'emploi. Donc, ils y sont, mais effectivement, bon.
Ça vous paraît être quelque chose qui est demandé? Ça correspond à des retours de photographes?
A priori, oui. Pour les photographes, oui, c'est quelque chose qui est demandé, puisqu'en fait, on optimise les réglages des imprimantes. Donc, c'est pour optimiser les rendus. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas impératif, mais si on veut vraiment entrer dans le détail, oui, c'est la manière d'optimiser à fond le rendu de l'impression.
Mais écoute, Sam, je te remercie pour avoir pris le temps de venir discuter avec nous et de répondre à ces différentes questions.
Je te remercie. J'espère que certains éléments sont plus clairs ou des questions que peuvent se poser des photographes ont été un petit peu éclaircies, en tout cas.
Ok, merci, salut.
Merci, au revoir.
Deuxième segment avec vos commentaires et vos réactions. Mais avant, je vous rappelle, si vous voulez laisser un commentaire ou une réaction, vous visitez simplement le blog www.déclencheur.com. Là, vous pourrez laisser un commentaire texte, complètement gratuit, ou un commentaire vocal en appelant une boîte vocale. Alors, de très très nombreux commentaires reçus, suite notamment à l'interview avec Frédéric Guichard de DxO, suite aux vœux de fin d'année, merci à tous ceux qui ont répondu avec des vœux, et enfin, suite à la diffusion de la centième, divers messages de soutien, d'encouragement, de vœux de fin d'année ou de félicitations reçus de la part de Béli, Val, DD23, Denis, Nouchema, Salcero, Florent, Bertrand, Jérémy, Sébastien Chenal, Thierry, Ojo, Godzilla, Agité, Canu Michael, Jean-Yves Gruffa, Frédéric, Photomine, Philippe Delettré, Serge, Cyril Marcouillou, Mario Moreau, Bertrand, Franck K, Gabriel, Franck Doyen, Croucrou, Wompat, Peter, Phil, JMR, Angone, Pierre-Luc, TG, Cyclope, Roberto, Guillaume G, Fabien, Elba Photo, Nicolas et Steph72. Merci à tous pour votre soutien. La réaction à la centième en particulier a été vraiment extraordinaire. Moi, je veux dire que j'ai vraiment pris mon pied en organisant ça et j'espère que si vous étiez avec nous le 9 décembre, vous êtes bien amusés également. Vous êtes plusieurs à m'avoir rappelé que j'avais promis de mettre en ligne le panorama Carnot à réaliser ce jour-là. C'est fait maintenant. Il suffit de visiter le blog www.déclencheur.com. J'épingle un commentaire de Nooks, qui a reçu un iPhone pour son anniversaire, qui confirme qu'effectivement, il est beaucoup plus agréable d'écouter un podcast en mobilité, en l'emmenant avec soi, plutôt que devant l'ordinateur. Bien sûr, chacun est libre, il y en a pour tous les goûts, mais c'est aussi mon expérience. Moi, je trouve que c'est plus agréable d'utiliser ce temps, qui sinon serait quelque part perdu. Et donc, pour moi, effectivement, un podcast, ça s'emporte, avec un baladeur, avec un téléphone multimédia ou un CD. Autre commentaire similaire, celui de Bigood, qui apprécie de pouvoir écouter tout en faisant toujours 12 autres choses en même temps. J'en profite pour vous signaler que Déclencheur a rejoint le Photocast Network, www.photocastnetwork.com, qui est un groupement de podcasts consacré à la photo. Sur le 100e épisode consacré au panorama avec Arnaud Frisch, un commentaire d'André qui demande plus de précision sur comment trouver le point nodal. Sur la durée de l'épisode, il est évidemment impossible de condenser toute une formation qui prend plusieurs jours. Donc pour une question très technique comme ça, je te renvoie soit au site, soit au livre d'Arnaud Frisch qui donne la réponse étape par étape. Sylvain Bouy, Mickey, JF demandent des précisions sur la tête panoramique utilisée. En fait, Arnaud nous a montré les trois modèles, le 303, le 303 sphérique et le 303+. Globalement, ce qu'il faut comprendre pour répondre à Mickey, c'est que le gros avantage de cette tête, c'est de faire gagner du temps en prise de vue. Arnaud l'explique, c'est le logiciel qui va faire la qualité de l'assemblage maintenant, avec les logiciels modernes. Mais la tête va permettre de gagner du temps, notamment grâce au grand H, qui fait qu'on peut faire les photos presque sans regarder. Quant à savoir si la tête sphérique est d'une précision millimétrique, la réponse de Manfrotto est non, ils ne sont pas millimétriques, ils sont coulissants, mais Arnaud ajoute qu'ils sont suffisamment précis pour qu'en pratique, le calage ne soit pas un problème. Mathias demande où tirer les photos panoramiques. Il y a quelques laboratoires, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas des masses qui sont capables de le faire. Je sais que notamment PhotoWiz le fait, j'ai pas eu l'occasion d'essayer le service. Sinon, la technique la plus flexible, c'est une imprimante jet d'encre, un modèle suffisamment sophistiqué pour accepter les rouleaux, et on peut réaliser un tirage aussi long qu'on le souhaite. Phil C. s'interroge sur l'utilité d'une réalisation vidéo pour cet épisode. Pourquoi ne pas faire simplement de l'audio? Très spécifiquement sur la 100e, c'est l'occasion de faire la fête, de faire quelque chose d'un peu différent. Mais c'est vrai que, puisque par ailleurs je ne cesse de dire qu'un podcast c'est intéressant parce que ça peut s'écouter en mobilité, la vidéo pose un certain nombre de questions. Et je dois dire que ce sont des voies que j'explore, et la réalisation de la 100e, ça s'est aussi fait dans ce contexte exploratoire. Sur l'interview avec Philippe Guichard de DxO, énormément de réactions. C'est une interview que j'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser, sur laquelle j'ai appris énormément, et visiblement c'est votre cas également. Une question de Stan qui s'interroge sur le rapport argentique-numérique. En argentique, dit-il, le film imprime une image presque directe de la réalité, par contre en numérique, il y a tout un processus de construction destiné à pallier les insuffisances du capteur. Je crois pas que c'est tout à fait correct, sincèrement, Stan. D'abord, la pellicule introduisait une certaine déformation de la réalité. Pour ne citer que trois exemples, le grain, la saturation et le contraste. C'est pour ça que certains photographes se sentaient plus à l'aise avec l'une ou l'autre pellicule, parce que les rendus étaient en fait très différents. Ce qui montre bien que la pellicule n'était pas l'image reflet de la réalité. Deuxièmement, là aussi, il y avait tout un traitement. Le tirage de la photo influençait de façon très significative le résultat. Donc je crois simplement qu'on utilise d'autres outils, c'est des outils mathématiques au lieu d'être des outils chimiques, mais qu'on soit en argentique ou en numérique, on part d'une représentation imparfaite de la réalité et on tente de construire une image plaisante. Quelques commentaires de Smeza, de Dan et de Manu de Lille sur la version 5 de DxO Optix Pro. C'est une notoriété publique, c'était dans tous les forums photo, il y avait des problèmes de stabilité autour de cette version. Après quelques plaintes, Manu de Lille rapporte que la dernière version est stable. Lightroom Reg répond à une question qui avait été traitée dans les commentaires de cet épisode-là, qui concernait le traitement des JPEG dans Lightroom. Pas vraiment en rapport avec le thème de l'interview donc, mais pour rappeler que les JPEG dans Lightroom sont traités de façon non destructive eux aussi. Donc Lightroom ne modifie pas le JPEG quand on applique des modifications, il enregistre les paramètres des modifications dans sa base de données. Et toute cette notion d'édition non destructrice est vraiment en très très grosse progression. Gaps et Mersenne échangent sur les logiciels libres consacrés au traitement des fichiers RAW, la conclusion semblant être que le meilleur choix est UFRAW. Quant à Jean-Laurent, il s'interroge sur le côté cumulatif de l'édition qu'on apporte aux photos, et il se demande si on n'est pas en train de dégrader son image en fait en la retraitant dans divers logiciels. Numéro 1, réécoute l'épisode sur les formats de fichiers et adopte des formats de fichiers non destructifs. Numéro 2, on est au début d'une démarche, et on le voit avec Lightroom Aperture, de façon moins marquée avec DxO, PhaseOne, etc. On est au début d'une démarche qui consiste à ne plus modifier le fichier image, mais à enregistrer les traitements à appliquer. Alors, la démarche trouve toujours des limites parce qu'il y a encore un certain nombre de traitements qu'on n'arrive pas à appliquer comme ça. Photoshop a une réponse formidable avec les objets dynamiques. Je vous ai déjà expliqué ce que je faisais en passant en RAW comme un objet dynamique, ce qui me permet de faire un certain nombre d'éditions sans toucher à mon fichier RAW. Ça coûte un peu cher parce qu'il faut CS3, la manipulation est un petit peu fastidieuse. Mais la tendance est clairement, et pour diverses raisons, à aller vers ce type d'édition non destructrice. Une autre raison, par exemple, c'est que de plus en plus, on n'édite pas une photo, mais un ensemble de photos. Et Photoshop, par exemple, est à peu près incapable de faire ça. Donc on voit bien l'intérêt d'une évolution des produits vers ces systèmes qu'Adobe commence à appeler des éditeurs paramétriques. On y reviendra. Sur le mini profil couleur et Lightroom, pas de pro demande s'il existe des sites d'impression qui travaillent avec d'autres profils de couleur que sRGB. Quelques laboratoires publient leurs profils ICC, Mais pour la simple raison qu'ils doivent rester compatibles avec le plus grand nombre, il n'est pas beaucoup plus large que le sRGB. Donc si gain il y a, il n'est pas au niveau du gamut. Retour sur l'épisode Flickr avec Boris qui dit « Tiens, c'est étonnant qu'on n'insiste pas plus sur les outils sociaux qu'offre Flickr. » Franchement, ça m'étonne pas énormément, parce que l'histoire de l'Internet, il me semble qu'elle est rythmée par des marques et on associe une marque à un service. Et la marque a beau faire évoluer son service, dans l'esprit de la plupart des gens, on continue à l'attacher au service d'origine. Et il faut qu'une start-up arrive sur le côté avec une nouvelle marque pour qu'on se rende compte que tiens, il y a quelque chose de différent qui arrive. Il suffit de prendre Amazon, je crois que pour la plupart d'entre nous, Amazon c'est un grand libraire, même si aujourd'hui Amazon a une gamme de produits tellement large que pour déclencheur, on achète de l'hébergement chez eux. William revient sur le mini choisir son appareil numérique et il se demande, possesseur d'un D70, si ça vaut la peine de continuer à investir dans du format DX ou s'il vaut mieux se tourner vers des objectifs 24-36, donc des objectifs au format FX comme Nikon les appelle maintenant. Personne n'a de boule de cristal. Historiquement, la tendance à photo a quand même toujours été vers l'utilisation de capteurs ou de pellicules de plus en plus petites, sauf pour des applications très professionnelles. Donc, personnellement, je ne vois pas le format DX disparaître demain, mais je ne sais pas ce qui va sortir demain, les fabricants ne communiquent pas dessus. Donc malheureusement, il faut faire ses choix sans être complètement informé. Notons que les objectifs DX sont compatibles avec les boîtiers FX, mais évidemment au prix d'un recadrage. Fradange lance un appel à l'aide, il est journaliste, il a 30 000 photos réparties dans 5 librairies iPhoto. Évidemment, iPhoto se révèle un peu léger pour gérer une bibliothèque de cette taille-là. Et il fait appel à la communauté pour trouver une solution, pour pouvoir basculer vers un autre logiciel. Sachant que le problème, c'est qu'il a évidemment placé des métadonnées dans iPhoto. Ces métadonnées ne sont pas dans les fichiers et donc il n'arrive pas à les récupérer. J'ai pas la moindre idée de comment pouvoir l'aider, alors si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à poster. Noan, sur l'épisode « Comment calibrer son écran ?», demande s'il est possible de calibrer deux écrans différents. La réponse, elle est dans les commentaires de l'épisode, un petit peu plus haut. Un commentaire d'Emmanuel, assez long, assez technique, mais qui donnait la réponse. Suite au duo Monde de la photo, un petit dialogue entre Vincent, Nicolas et Magali sur la situation de la presse photo. Un dialogue qui commence par Vincent, qui dit qu'en substance, aujourd'hui, il ne lit plus de magazines. Il préfère épuiser l'information sur Internet. Nicolas et Magali ont un avis différent. Personnellement, je prends toujours énormément de plaisir à lire des magazines photos, mais je note, c'est quelque chose qui revient dans vos commentaires, c'est quelque chose qui revient dans des emails que je reçois, c'est quelque chose qui revient quand je vous rencontre, une demande pour que Déclencheur s'ouvre un petit peu et couvre également l'actualité. Alors, je crois pas que le podcast est la bonne formule pour le faire. On a quelque chose en bêta. Je vous ai promis des nouveautés pour 2008 et ce sera une des nouveautés. Énormément de réactions suite à l'épisode DNG format RAW, format propriétaire, format ouvert. Avec une discussion entre JLF, Alain, JMK, Mickey, Romain, Florent, Daniel Elbert, Gilles et Mersen. Il y a beaucoup beaucoup de choses et j'aurai pas le temps de tout traiter ici. Le cœur du problème, parce que je constate qu'il n'est pas toujours très bien compris, c'est rien de moins que la capacité dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans de relire nos photos, puisque c'est une des promesses du format RAW, c'est de pouvoir bénéficier de l'évolution des algorithmes. C'est un aspect que je connais bien parce que, de par mon activité de conseiller en informatique, je suis souvent confronté à cette problématique. Et on peut en gros résumer la sécurité d'un archivage informatique à une dizaine de règles. Et la première de ces règles, c'est ne jamais stocker ces données dans un format propriétaire. Et cette règle, elle n'a pas été écrite par hasard. Elle est le fruit de 60-70 ans d'expérience en informatique. Il y a quelques questions demandant plus en détail ce qui se perd lors d'une conversion vers un format DNG. La réponse, c'est on ne le sait pas, parce que si on le savait, on ne les perdrait pas. Ce serait plutôt des métadonnées. Mais quelle est l'importance de ces métadonnées ? Que font les logiciels des fabricants avec ces métadonnées? On n'en sait rien. Notons d'ailleurs que DNG en soi n'est pas la garantie d'une réponse, pour deux raisons. Numéro 1, il est possible en DNG de continuer à stocker des informations propriétaires. On peut espérer que les fabricants de boîtiers qui ont fait le choix du DNG comme Pentax ne le font pas, mais j'avoue que j'ai pas la réponse. Ce serait une bonne question à leur poser d'ailleurs. Deuxièmement, aujourd'hui, DNG n'est pas un format normalisé. Il n'est clairement pas adopté sur le marché, il n'a clairement pas une position dominante sur le marché, dans le sens où l'essentiel des RAW ne sont pas aujourd'hui stockés en format DNG. Je crois qu'on peut avoir confiance dans Adobe. Si le format prend, Adobe le déposera dans les instances internationales. Ils l'ont déjà fait, par exemple, sur le PDF. Mais par contre, on n'est pas sûr que ce sera effectivement le format qui va s'imposer à l'avenir. Donc c'est pour ça que, personnellement, je vous l'avais expliqué dans l'épisode archivage, on y est revenu dans l'épisode sur les formats de fichiers. Mon choix, mais qui est un choix très personnel, est de conserver mes fichiers RAW dans des formats propriétaires, tout en surveillant très attentivement la situation et en étant prêt à agir si on avait besoin. D'autres choix peuvent tout à fait se justifier, je vous explique simplement ce que je fais. Et pour conclure, il n'y a pas de raison de s'inquiéter tout de suite, je répète qu'aujourd'hui moi je ne convertis rien, mais il est temps de faire pression sur les fabricants pour qu'ils se comportent, je vais dire avec plus de professionnalisme. Une question de Benoît qui demande si la situation a évolué pour les tirages noir et blanc auprès des labos grand public. À ma connaissance, non. Et je conclue avec un commentaire de Jérémy qui s'interroge trépied ou monopied. En deux mots, c'est pas du tout la même chose. Le monopied est plus pour une photo d'action, une photo où on va bouger. Le trépied est pour quelque chose de plus posé, mais il est aussi beaucoup plus stable. On va revenir sur ce sujet parce que j'ai un rendez-vous chez Bogen à la fin du mois. Il me reste à vous remercier de votre écoute. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner. www.déclencheur.com. L'abonnement à un podcast est gratuit. Ça signifie simplement que vous recevez les nouveaux épisodes automatiquement dès leur parution. Si vous utilisez un agrégateur RSS tel qu'iTunes, eh bien vous pouvez automatiquement télécharger les épisodes dans votre iPod. À bientôt !